La sanction était attendue. Monseigneur Milingo a été excommunié mardi dernier. Une sanction automatique prévue par le canon 1382 du Code de droit canon. L'archevêque émérite de Lusaka en Zambie avait deux jours avant consacré quatre évêques sans mandat pontifical, une mesure illégale. Dans une note, le Saint-Siège déclare avoir suivi avec une vive inquiétude les récentes activités de Monseigneur Milingo qui ont, je cite, « semé la division et le désarroi parmi les fidèles ». Dans les Clés de Saint-Pierre, nous revenons sur la notion d'excommunication, mais avant, Mathilde Auvillain revient sur le parcours de Monseigneur Milingo.
L'archevêque controversé avait déjà fait parler de lui lors de son mariage avec une adepte de la secte Moon il y a 5 ans, un mariage rompu par la suite, mais en juillet dernier. Il s'est ensuite enfui du village italien où le Saint-Siège lui avait demandé de se retirer pour la rejoindre et créer une nouvelle association de prêtres mariés aux États-Unis. Plusieurs responsables de l'Église indiquent la note ont entrepris de nombreuses démarches pour dissuader Monseigneur Milingo de persévérer dans ses actions. Actions qui, toujours selon ce communiqué, ont fait scandale, surtout parmi les fidèles habitués à sa pastorale en faveur des pauvres et des malades. Fin août, le cardinal Ré lui avait adressé un avertissement formel et lui avait donné jusqu'au 15 octobre pour revenir sur ses positions, mais en vain. La note souligne la compréhension manifestée par le pape à l'égard de ce pasteur âgé de 76 ans. Le Saint-Siège a attendu avec une patience vigilante l'évolution des événements qui malheureusement ont conduit Monseigneur Milingo à se placer dans une situation irrégulière et de rupture de plus en plus ouverte de sa communion avec l'Église.
Professeur de droit canonique à la faculté de théologie de Strasbourg, Jean Werckmeister revient sur le processus qui a conduit à l'excommunication de Monseigneur Milingo.
Ça n'a pas été rapide en réalité. Puisque Monseigneur Milingo avait eu différents ennuis déjà, il y avait eu des problèmes à propos d'exorcisme. On avait dit qu'il avait mélangé un petit peu les exorcismes catholiques avec de la pratique magique africaine. Donc il avait déjà eu quelques ennuis de ce côté-là. Et puis il y a 2 ou 3 ans, il avait épousé donc quelqu'un. Il avait été condamné aussi parce qu'il s'était marié. Mais dans l'Église catholique, il y a une hiérarchie des peines. Les peines les moins graves, ce sont par exemple l'assignation à résidence. C'est une des peines qui existe, c'est de demander à quelqu'un de rester dans tel et tel endroit précis, dans un monastère par exemple. Et puis une peine plus grave, ensuite, c'est la suspense. Monseigneur Lefebvre, par exemple, avait été longtemps suspens ad vinis. Ça veut dire qu'il n'avait pas le droit de célébrer les sacrements.
Qui décide exactement de l'excommunication ?
Pour ce cas précis, donc, c'était automatique. Donc personne n'a pris la décision. Dans d'autres cas, ce sont les évêques qui peuvent excommunier, le pape qui peut excommunier, ou des tribunaux d'église.
Pour quel cas est-ce que l'on réserve cette excommunication automatique ?
Dans le code actuel, il y a 9 cas encore d'excommunication automatique. D'ailleurs, ça n'existe plus que dans le code pour l'église d'Occident, l'église latine, par exemple pour les maronites du Liban, pour les différentes églises catholiques orientales. Eux n'ont pas gardé du tout cette excommunication automatique. Alors les cas qui existent, c'est dans le droit actuel, c'est l'apostasie, l'hérésie, le schisme, l'avortement, la violence contre le pape. Le droit canonique sanctionne principalement des délits qui concernent l'Église directement. Et normalement, des crimes de droit commun sont sanctionnés par la législation des différents États. Par exemple, en France, un prêtre pédophile sera principalement sanctionné par les tribunaux français. Et le droit canonique n'a pas toujours prévu des peines pour tous les crimes et les délits que peut commettre quelqu'un.
Le code actuel de droit canon est moins restrictif que l'ancien. Il y a moins de possibilités de se faire excommunier.
Un petit peu moins, oui. C'est-à-dire que surtout l'excommunication est devenue un peu moins sévère. Parce que jusqu'en 1983, jusqu'au nouveau code, il existait une peine supplémentaire qu'on appelait les excommuniés vitandus. C'est les excommuniés à éviter. Alors par exemple, si un commerçant était excommunié vitandus, les catholiques n'avaient plus le droit d'aller faire leurs courses chez lui. Il était vraiment mis au ban de la société. Alors cette peine-là n'existe plus dans le code de 83.
Comment est née la notion et l'application de l'excommunication ? L'Église l'a créée pour remédier aux pratiques de l'Église chinoise notamment ?
Alors, l'excommunication est très ancienne, elle, hein, ça existe depuis le judaïsme. En réalité, c'est une peine qui est tirée de l'Ancien Testament. Mais pour le cas des évêques ordonnés sans mandat pontifical, donc Monseigneur Milingo a ordonné 4 évêques américains sans l'autorisation du pape, l'excommunication a été infligée dans ce cas-là depuis 1951. Vous savez, en Chine, donc le nouveau régime chinois, le communisme, s'est installé au pouvoir en 1949. Et puis, en 1951, la Chine a expulsé le nonce apostolique, qui s'est installé du coup à Taïwan. Et depuis, le Saint-Siège et la Chine ont des relations assez tendues. La Chine a créé une église qu'on appelle l'église patriotique chinoise, qui choisit elle-même ses évêques. Et en réalité, ils sont choisis par le Parti communiste et ils sont ordonnés sans mandat pontifical. Et donc, en 1951, le Vatican a émis un décret qui excommunie les évêques qui ordonnent des évêques sans mandat pontifical.
Qu'est-ce que l'Église veut sanctionner exactement dans l'excommunication ? Est-ce que c'est le comportement d'une personne isolée ou bien le danger qu'elle représente pour l'Église en essayant de chercher d'autres personnes et de convaincre d'autres personnes d'agir comme elle ?
C'est le problème général dans toutes les sociétés. À quoi servent les peines ? À quoi sert la prison ? À quoi sert la peine de mort dans les pays où elle existe ? Elle sert à la fois à punir le délinquant et en même temps à essayer d'empêcher d'autres délits du même type. Alors pour l'excommunication de Mgr Milingo, je pense que c'est à la fois contre lui personnellement, mais c'est évidemment aussi pour rappeler qu'il ne faut pas faire d'ordination épiscopale ou autre contre l'avis du Saint-Siège. Ça vise indirectement aussi, par exemple, les partisans de Mgr Lefebvre.
On se rapproche donc de la notion de schisme qui, dans le droit canon, est très vague.
On ne peut pas dire que ce soit vague dans le droit canon, mais c'est restrictif dans le droit canonique. Dans le code de droit canonique actuel, le schisme est défini comme le refus d'obéissance au pape. Alors qu'une notion plus large du schisme, ce serait de créer une église schismatique, une église séparée de l'église romaine. Alors, est-ce que Mgr Milingo veut vraiment créer une église schismatique ? Il faudrait lui poser la question à lui, je ne sais pas. Mgr Lefebvre, on n'a jamais très bien su s'il a essayé de créer une église schismatique, parce que lui-même prétendait être le plus catholique que le pape lui-même, si vous voulez. Dans l'affaire en question, on ne sait pas très bien si le schisme qui est visé par le Vatican, est-ce que c'est véritablement un schisme au sens large, création d'une église schismatique, ou est-ce que c'est le schisme au sens étroit du mot « refus d'obéissance au pape ».
Quelles sont les conséquences de cette excommunication, non pas sur le plan pratique, mais plutôt sur le plan personnel ? L'Église, en tout cas, la présente comme une forme de guérison également ?
Oui, mais là encore, c'est une question de philosophie de la peine. À quoi servent les peines, la prison et toutes les autres peines ? Alors, une des théories dit que la peine sert à réhabiliter le délinquant, à le redresser, si vous voulez, à le guérir. En droit canonique, effectivement, il existe une théorie de la peine médicinale. La peine sert de médicament pour guérir le délinquant. Et l'excommunication est une peine médicinale. Son but, c'est de permettre à la personne de se rendre compte de l'erreur qu'elle a commise et de revenir dans le droit chemin.
Concrètement, ou dans ce cas précis de l'archevêque Milingo, est-ce que ça peut marcher ou comment est-ce que cela peut marcher ? Est-ce qu'il sera accompagné ensuite par des personnes de l'Église, justement, pour faire ce travail de reconnaissance de sa faute ?
Est-ce qu'il sera accompagné, si lui veut bien, se laisser accompagner par quelqu'un sans doute ? Mais le but, c'est quand même à travers la sanction, c'est-à-dire le refus de lui donner les sacrements, on espère qu'il reviendra de meilleurs sentiments. C'est-à-dire concrètement, il faudrait qu'il aille se confesser de ses fautes et il obtiendra l'absolution.
Pourra-t-il rentrer dans le sein de l'Église ?
Il ne quitte pas du tout l'Église à cause d'une excommunication. C'est comme un citoyen français ou d'un autre pays. C'est pas parce qu'il va en prison qu'il perd sa citoyenneté.
Ce qui est étonnant dans ce cas-là, c'est que finalement, se marier pour un prêtre n'entraîne pas l'excommunication automatique, alors que ordonner d'autres évêques, oui.
Oui, parce que se marier pour un prêtre, c'est une faute assez privée, si vous voulez, une faute individuelle. Tandis que ordonner d'autres évêques, c'est un danger pour l'Église elle-même. Ça risque de créer une Église schismatique.
C'était Jean Werckmeister, professeur de droit canonique à la faculté de théologie de Strasbourg et auteur d'un petit dictionnaire de droit canonique aux éditions du Cerf.